Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Partenaire historique du Mali depuis 1958, l'Union européenne a toujours été aux côtés du Mali. L'organisation soutient plusieurs secteurs cruciaux du pays. La promotion de la bonne gouvernance, la citoyenneté, la lutte contre la corruption, l'appui au monde rural, au processus électoral, j'en passe. Pourtant, l'Union européenne est aussi victime de beaucoup d'amalgames, mais aussi de préjugés, notamment, surtout depuis la brouille entre la France et le Mali. Alors, qui mieux que le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali pour lever toutes ces équivoques et éclairer la lanterne des Maliens sur ces questions? Monsieur Pascal Perenec est l'invité spécial de ce grand dialogue d'aujourd'hui. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie et je remercie tous vos auditeurs de bien vouloir nous écouter.
Alors, ce débat se fera en trois temps. Une première partie consacrée aux relations entre le Mali et l'Union européenne. Une seconde partie consacrée aux questions migratoires. Et une dernière partie consacrée à l'aide humanitaire. Tout d'abord, pour cette première partie, ma première question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir comment se portent aujourd'hui les relations entre l'UE et le Mali.
Très bien. Et je vous remercie d'ailleurs de commencer par cette question parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de rumeurs qui courent et il faut tordre le cou à ces rumeurs. Nous venons de quitter le mois de mai et le mois de mai est traditionnellement le mois de l'Union européenne, sachant que le 9 mai, c'est la journée de l'Europe et ça nous permet au cours de ce mois de faire un peu le bilan de nos activités et de nos attentes sur place. De renouer, c'est même pas renouer d'ailleurs, c'est d'établir encore plus fortement le dialogue avec les autorités du Mali. Donc ce mois de mai me permet d'avoir dressé ce bilan et avec beaucoup de satisfaction, on peut dire que notre relation est très bonne. Alors, ce mois de mai a été particulièrement dense, mais le mois qui arrive va l'être également, puisque nous avons les élections au Parlement européen qui arrivent entre le 6 et le 9 juin, et qui là aussi auront des grandes répercussions sur notre coopération et notre politique étrangère. Donc tout ça, c'est l'occasion pour nous de... Encore une fois, d'essayer de clarifier notre position au mieux. Et donc, je vous remercie de nous donner la parole et de pouvoir ainsi bénéficier de vos auditeurs qui, j'espère, après, se feront les porte-parole de la vérité en la matière.
Alors, vous l'avez dit, les élections européennes qui s'annoncent vont avoir des répercussions sûrement sur la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Mais d'ores et déjà, quels sont les domaines de coopération qui sont les plus dynamiques? Certains peuvent être beaucoup plus dynamiques que d'autres. Est-ce qu'on peut savoir les domaines dans lesquels la coopération entre le Mali et l'Union européenne marche bien?
Oui, alors globalement, et ça va peut-être vous surprendre, je crois qu'elle fonctionne bien partout. Il n'y a qu'un seul domaine qui désormais n'est plus de mise ici, c'est la coopération militaire, mais tous les autres domaines fonctionnent très très bien. Nous avons un excellent dialogue avec les autorités dans les différents domaines en question et on peut dire que tout se passe vraiment très bien. Il y a une bonne écoute, c'est un partenariat, hein, il ne faut pas l'oublier. On n'arrive pas en disant je viens coopérer et vous proposer ça. C'est véritablement un partenariat, on est à l'écoute des autorités maliennes, des besoins du Mali. Et à partir de là, on établit différents programmes en fonction, là aussi, de nos capacités. Donc, bien évidemment, on a plusieurs... Je vais faire un peu étalage de chiffres. Donc, vos auditeurs me pardonneront parce que ça fait un peu déplacé quand on étale tout ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, nous avons un peu plus de 840 millions d'euros de programmes en cours au Mali. Donc, vous voyez, la somme est conséquente. Et cette année, nous remettons encore 94 millions d'euros dans cette coopération, preuve qu'elle est bien vivante et qu'elle existe. On reste le premier partenaire du Mali. Alors, c'est pas une compétition.
Est-ce qu'on peut savoir si ces financements sont axés sur quel domaine précisément ?
Alors, comme c'est très large, je vais peut-être juste me concentrer sur ceux de cette année 2024. Mm-hmm. Nous avons plusieurs domaines. Nous avons la muraille verte, où je pourrais revenir en détail dessus s'il faut. L'éducation et la formation, le secteur privé et l'autonomisation des femmes. Ce seront nos grands domaines d'activité, ce qui n'exclut pas autre chose, puisque nous avons des package, en fait, dans la coopération, mais c'est ça un peu les grands domaines directeurs de notre action.
Alors, on l'a dit, depuis cette brouille entre le Mali et la France, brouille diplomatique, bien sûr, beaucoup de gens n'ont pas su faire la différence entre l'Union européenne et la France. Beaucoup de gens ne font pas habituellement la différence entre l'Union européenne et ses États membres. Ils ne comprennent pas la différence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la différence ? C'est quoi l'Union européenne, les États membres aussi ? Quel est leur rapport ?
D'accord. Alors, c'est effectivement une excellente question. La France fait partie de l'Union européenne, mais elle n'est qu'un des 27 membres, je dis bien 27 membres de l'Union européenne. Donc elle fait partie des membres fondateurs. Donc à ce titre, effectivement, elle a un poids important, mais elle n'est pas seule dans cette position-là. L'Allemagne fait aussi partie des membres fondateurs, la Belgique également, etc. Donc ils ont peut-être un poids historique, mais en aucun cas ils ne représentent l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 États qui travaillent en permanence dans la concertation. Et c'est ce consensus qui est un peu quelque chose qui est un peu inédit dans le monde, arriver à faire une institution multinationale qui travaille en permanence dans le consensus. On en est assez fiers parce que 27 États, on peut bien imaginer qu'il y a des intérêts divergents, qu'il y a des points de vue divergents sur justement la coopération ou l'action politique dans le monde. Et nous avons à Bruxelles et à Strasbourg, où il y a le Parlement, nous avons un dialogue permanent au sein des institutions qui nous permet d'avoir cette cohésion des 27 États, et une cohésion qui s'arrache à force de longues discussions parfois, mais on y parvient toujours. Donc ça, c'est un exemple aussi pour le monde entier, et on en est assez fiers.
Alors, vous l'avez dit, cohésion, mais aussi consensus sur beaucoup de questions. C'est ce qui va nous amener à vous faire écouter cette première question d'un auditeur de Bamako.
Bonjour, moi je suis Modibo Fofana, je suis le président de l'Association des professionnels de la presse en ligne. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir, est-ce que aujourd'hui le climat de méfiance entre la France et le Mali ne va pas influencer sur les autres pays de l'Union européenne de soutenir ou d'assister le Mali dans son développement?
Alors, je ne vais pas le cacher. Oui et non. C'est-à-dire comme... et c'est une bonne question de l'auditeur. Effectivement, ça peut l'influencer dans le sens où la France a son mot à dire parmi les 27. Mais évidemment, c'est une position parmi les 27. Donc oui, elle a une influence parmi les 27. Mais elle est obligée, elle aussi, de tenir compte de l'avis des 26 autres membres. Et donc, de ce point de vue, ce n'est pas la France qui décide seule de la position de l'Union européenne au Mali. Donc, l'Union européenne au Mali a sa dynamique qui est issue, comme je l'ai dit, de ce consensus de tous les États membres. Et on a une certaine liberté d'action grâce à ce consensus, ce poids des 27 États derrière nous. Ce qui n'empêche pas qu'après, chaque État membre peut avoir une politique qui lui est propre, une relation bilatérale qui lui est propre au sein de chaque pays dans le monde, y compris donc au Mali. Mais l'Union européenne a sa politique propre qui est indépendante de la politique de chaque État. C'est une politique consensuelle.
Alors, si un pays comme la France, pays membre de l'Union européenne, se retire ou bien met fin à sa coopération avec un autre pays, est-ce que l'Union européenne peut continuer à soutenir ce pays tout en bénéficiant de la contribution de la France au sein de l'organisation ?
Oui, alors là, c'est une question complexe et que je vais essayer de faire une réponse simple. Bien évidemment, la preuve, c'est qu'au Mali, actuellement, nous n'avons pas la représentation des 27 États. Ce qui ne veut pas dire que les 27 se désintéressent du Mali. Mais après, voilà, chacun a ses priorités, agit dans différentes parties du monde. Donc le fait qu'un État ne soit pas présent ou se retire d'un pays tiers... n'a pas forcément de conséquences sur la politique européenne. Ça peut être conjoncturel, parce que ce pays aussi fait des économies d'échelle, par exemple, et souhaite se retirer de certains pays pour se concentrer sur d'autres. Et donc c'est valable pour la France comme pour les autres pays. Donc évidemment, après, son appréciation, une fois parti du pays ou pour les raisons qui l'ont conduit à quitter le pays, se fera entendre au sein des institutions européennes. Mais il n'est pas dit que l'Union européenne adhère à cette position. Et la preuve, c'est que, comme je vous l'ai dit, ici, nous avons 9 États membres et sur les 27. Et l'Union européenne continue de suivre son chemin, et ça depuis 66 ans. 66 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous n'étions pas nés, hein, 66 ans. Donc voilà, à ce stade-là, ce partenariat de 66 ans, ce n'est plus un partenariat, c'est une amitié. Et bon, évidemment, comme dans toute amitié, je dirais, il y a parfois des hauts et des bas, mais l'amitié se poursuit. Et là, c'est pareil pour notre relation avec le Mali. Il y a eu, c'est vrai, des hauts débats, soyons honnêtes, il faut le dire. Mais on est toujours là, on est toujours engagé, on souhaite rester engagé. Et voilà, comme je l'ai dit récemment au ministère des Affaires étrangères...
Sans condition, cet engagement n'a pas de condition, il n'y a pas de condition à cet engagement de l'Union européenne aux côtés du Mali.
Non, notre engagement est sans condition. C'est une réponse un peu rapide, parce que la condition, c'est toujours que l'on puisse exercer toujours notre présence et notre coopération ici. Il est évident, et l'Afghanistan, par exemple, en est un bon exemple, c'est que si, par exemple, la situation sécuritaire, évidemment, je ne le souhaite pas, et c'est donc un exemple un peu malheureux que je prends, mais si la situation sécuritaire nous obligeait à quitter le pays, bien évidemment, on le ferait, mais ça serait pas de notre intention propre. C'est les circonstances qui nous imposeraient de quitter le pays. Après, les autorités maliennes peuvent aussi le décider. Là aussi, on est dans les échanges et le partenariat. Et un partenariat, il faut être deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on entretient en permanence le dialogue pour savoir où on est de notre amitié de 66 ans.
Alors l'Union européenne, regardant sur le contexte sécuritaire, mais aussi la situation politique dans les pays avec lesquels elle est en partenariat, d'où cette question de cet auditeur aussi que je vous invite à écouter.
Je suis un auditeur, un ressortissant de Kuchala. Est-ce que l'Union européenne, dans le cadre du développement, nous impose ou nous propose l'aide dans le cadre du développement?
Alors là aussi, c'est un peu comme avec la France. Je voudrais tordre un peu le cou à cette idée. On n'impose rien. C'est-à-dire tout se fait, évidemment, en concertation avec les autorités. Tous nos programmes que j'ai listés au début sur la barrière verte, l'éducation, la formation, etc., se font évidemment en liaison avec les ministères qui en ont la charge. C'est cet échange qui nous permet de détecter les besoins, et nous, on fait des propositions pour y répondre. Si ça convient, tant mieux, on le met en œuvre, mais là aussi, évidemment, en lien avec les autorités. Et en aucun cas, on agit ici de façon complètement autonome, et encore moins parce qu'on le veut. Non, c'est un partenariat, et on reste toujours à l'écoute des autorités, et ce dialogue est permanent.
Alors cette question, toujours dans le domaine politique, il y a cet auditeur qui voudrait savoir, est-ce qu'aujourd'hui le contexte politique du Mali, avec la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique, est-ce que cela peut amener l'Union européenne à réorienter l'aide qu'elle apportait à ces organisations vers d'autres secteurs?
Non, alors là aussi, c'est encore quelque chose auquel je souhaite tordre le cou un petit peu. Nous ne menons pas d'activité politique au sens parti politique. Donc nous ne faisons pas de soutien aux partis politiques. Ça doit être bien clair. Ce que fait le Mali de façon souveraine, c'est une chose. Notre domaine d'activité, c'en est une autre. Nous, cela ne nous empêche pas d'avoir des rapports avec les partis politiques, parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre le cadre dans lequel nous évoluons, donc et de comprendre les dynamiques en cours, les aspirations également du peuple malien. Donc c'est pour être efficace dans notre coopération, mais en aucun cas nous nous mêlons de politique. Nous nous adressons à tous les partis, ceux qui veulent bien discuter avec nous pour nous faire part de leur éclairage. Mais après, la façon dont la situation politique se passe sur place, et évidemment, on a un avis dessus. Ne soyons pas candides. On a un avis. Il y a un modèle européen qui défend certaines valeurs. Mais c'est de la politique intérieure malienne, et cette souveraineté, nous la respectons.
Alors, vous l'avez dit tantôt, la mission européenne de formation pour les forces armées maliennes, EUTM, est arrivée à son terme le 18 mai dernier. Elle n'a pas été renouvelée. Peut-on savoir pourquoi? D'abord, est-ce que c'est une décision prise en concertation avec les autorités maliennes, ou bien c'était une décision unilatérale des 27?
Non, alors c'était une décision effectivement qui a été prise en concertation. En concertation parce que, bon, d'abord, la mission EUTM, cela faisait 12 ans qu'elle exerçait les missions d'entraînement au Mali. Et donc je tiens ici à rendre hommage à tous ces hommes qui sont venus de plus d'une quinzaine de pays européens pour aider l'armée malienne dans sa formation, dans sa lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une pensée toute particulière pour les deux morts de la mission EUTM dans le cadre de l'exercice de leur mission. Je me permets aussi d'ailleurs d'avoir une pensée pour toutes les victimes, d'une façon générale, civile et militaire, du terrorisme au Mali. Mais là, puisqu'on parle de EUTM, voilà, je pense plus particulièrement à ces deux soldats espagnols qui sont décédés en mission. Donc cela s'est fait dans un commun accord. Effectivement, on arrivait à la fin de mandat de l'EUTM. Donc naturellement, comme je dis, on a une discussion permanente avec les autorités. On a convenu qu'effectivement, c'était une fin de mandat et que à la fois l'EUTM ne répondait plus suffisamment aux attentes des autorités maliennes. Et c'est vrai que son cadre d'emploi imposé par l'Union européenne ne permettait pas d'évoluer davantage. Donc, à cette fin de mandat, nous avons rapatrié notre mission.
L'EUTM ne répondait plus suffisamment. Est-ce que c'est les autorités qui vous l'ont fait savoir, ou bien c'est un constat que vous-même vous avez fait ?
C'est un constat conjoint, mais les autorités nous en ont fait part, bien évidemment.
D'accord. Alors, après 12 années de mission, vous, en tant que chef de la délégation de l'Union européenne, bien avant d'être chef, vous avez travaillé pour cette organisation. Quel bilan vous pouvez tirer de cette mission de l'EUTM ?
Alors, je n'ai pas travaillé pour cette mission.
Non, l'organisation, l'UE.
Oui, l'UE. Alors, l'EUTM est une mission. Alors, l'EUTM ne travaille pas que au Mali. Elle a eu cette mission d'entraînement militaire. Travaille sur plusieurs théâtres d'opération. On peut dire qu'elle a formé à peu près 10 000 soldats maliens. Donc c'est pas rien. Quand 10 000 soldats, tout le monde mesure à peu près l'étendue de cette formation. C'est important. Elle a aussi participé à la formation du G5 dans sa lutte contre le terrorisme. Donc il y a eu vraiment un apport non négligeable sur la capacité opérationnelle des forces maliennes. Plusieurs militaires maliens nous l'ont dit. Le chef d'état-major général des armées, lors du départ, la cérémonie de départ de UTM, en a fait part également. Donc c'est un satisfecit que cette mission EUTM. Et ça s'est bien passé. On ne faut pas regretter le départ. Il faut juste se satisfaire de ce succès pendant ces 12 années.
Alors après l'EUTM, comment se manifeste, sinon s'exprime désormais la coopération entre le Mali et l'UE sur le plan sécuritaire?
Alors, il y a plusieurs... l'UTM, je l'ai parlé, donc c'en est fini. Mais on a toujours, dans le domaine sécuritaire, nous avons toujours une mission civile, ECAP. ECAP Sahel Mali, qui opère depuis 2015. Et là aussi, à la grande satisfaction des autorités, ils nous l'ont fait savoir et on en est ravis. On essaye même actuellement, je ne vais pas tout dévoiler, mais on essaye de renforcer même son domaine d'action de façon à ce qu'elle puisse apporter aux forces de défense et de sécurité un soutien renforcé. Ces forces, évidemment, c'est très large. Hein, c'est la police, la gendarmerie, tout le corps habillé en la matière. Et donc, on va essayer de renforcer encore cette mission. Évidemment, tout ça va faire l'objet d'échanges, hein, que ce soit avec les autorités maliennes pour bien comprendre leurs attentes. Et en même temps, évidemment, il faut que la partie européenne mette à disposition les moyens pour pouvoir mettre en œuvre ces attentes. Donc tout ça est en cours de discussion. Mais on continue notre concertation et on reste bien engagé pour travailler à plus de sécurité au Mali.
Alors, toujours sur le domaine sécuritaire, nous allons écouter cette question de cet auditeur aussi.
Quel rôle l'Union européenne a joué ou peut-elle jouer dans le cadre de lutte contre le terrorisme au Sahel ?
Alors, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que... Il y a plusieurs réponses à ça. Il y a une réponse, on va dire, nationale au Mali que l'on a évoquée déjà à l'instant avec le travail effectué par EUTM et par ECAP Sahel Mali. Mais il y a aussi un travail qui est fait dans notre coopération habituelle puisqu'on essaie de travailler sur les causes profondes de ce terrorisme. Il est évident que... Le djihadisme partout dans le monde, c'est pas qu'au Mali, et puis Dieu sait que c'est un problème mondial, s'installe, prolifère là où l'État manifeste un peu de faiblesse. Il en profite et on voit les dégâts que ça cause partout vraiment dans le monde. Et donc notre travail, c'est un peu d'essayer d'aider l'État dans ce cas-là à réaffirmer sa présence. Que ça soit, par exemple, avec la justice, hein, si on peut avoir des maisons de justice qui fonctionnent et qui sont accessibles à tous les citoyens, évidemment, ça va rassurer la population. Mais également dans le domaine de l'éducation, puisque une population qui est éduquée, en général, ne sombre pas dans les dérives que propose le djihadisme, etc. etc. Voilà, on essaie de travailler sur les causes profondes qui provoquent malheureusement ce malheur mondial.
Alors, il y a cet auditeur de Kuchala hein, qui demande si l'Union européenne était prête à accompagner des initiatives locales qui permettent souvent de ramener la stabilité, la paix dans les localités, puisque les accords de paix d'Alger et tous les autres processus qui ont été initiés n'ont pas pu aboutir à une paix durable. Est-ce que l'Union européenne est prête à accompagner ces genres d'initiatives ?
En général, on fait tout notre possible pour accompagner les initiatives de paix. L'Union européenne, là-dessus, est un exemple sur justement l'établissement de la paix. On commémore actuellement sur les plages de Normandie un peu ce qui a conduit vers la fin de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. On a célébré l'armistice le 8 mai, juste avant la journée de l'Europe, ce qui est peut-être pas non plus anodin. L'Europe s'est bâtie dans la perspective de plus jamais ça, la guerre, et là, une paix durable. Donc évidemment, on est prêt et on accompagne toutes les initiatives possibles qui profitent à la paix. Il est évident qu'on ne peut pas être partout non plus. Il ne faut pas être angélique là-dessus. Mais quand on le peut, on le fait parce que c'est dans notre ADN, dans la construction de l'Europe, de vouloir la paix. Donc évidemment, si on le peut, on fait le nécessaire. C'est pour ça que les accords d'Alger, même si désormais ils ne sont plus d'actualité, on faisait partie évidemment des acteurs qui ont accompagné, qui ont tenté d'accompagner leur mise en œuvre, même si ça n'a pas débouché comme on le souhaitait. Mais on s'est associé à cette, avec ça, avec d'autres pays et l'ONU, bien sûr. Mais voilà, on essaye de mettre notre pierre à l'édifice quand c'est possible. Donc oui, on essaye d'accompagner toute initiative de paix dans la mesure du possible.
Alors nous allons attaquer à présent la deuxième partie de ce débat consacré aux questions migratoires. Tout d'abord, Monsieur Perrinec, peut-on savoir quelle est la politique migratoire de l'UE aujourd'hui vis-à-vis, en tout cas, de ses partenaires africains? Est-ce qu'elle a changé?
Alors ça, c'est vraiment un sujet, je crois, qui passionne malheureusement des deux côtés de la Méditerranée. Le problème migratoire est effectivement est un souci pour l'Europe, mais pas que. Elle est un souci pour les pays d'origine, les pays de transit et les pays destinataires. C'est ce que le sommet de la Valette, d'ailleurs, a bien pris en compte. C'est qu'on ne peut pas dire simplement le problème migratoire, c'est le problème des pays qui reçoivent les migrants. Non, c'est un problème général. Quand des pays en Afrique perdent une partie de leur jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier que ces routes migratoires sont des routes meurtrières, ce sont des routes qui conduisent au malheur pour beaucoup d'entre eux, ceux qui tentent cette route risquée. Je rappelle quand même qu'il y a des trafics d'êtres humains, il y a de l'esclavagisme, il y a de la prostitution, il y a de tout sur cette route-là. Les gens qui partent sur ces routes illégales, évidemment, leur statut d'illégaux les conduit forcément à être vulnérables. Donc notre souhait, c'est d'arriver à une migration légale uniquement. L'Europe travaille, parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'ensemble des États membres de l'Union européenne ne sont pas tous d'accord, justement, sur cette politique migratoire. Donc on est encore dans une phase de recherche. Et cela me ramène aux élections qui vont se tenir, ou qui se tiennent, même, on peut presque dire, désormais... en Union européenne, c'est évidemment, selon la majorité qui va se dessiner au Parlement européen, on est susceptible d'avoir une politique qui va aller dans un sens ou dans l'autre. Donc ça m'est difficile encore de parler de cette politique migratoire parce qu'elle n'existe pas à proprement dite, elle se construit. Actuellement, on est plutôt dans une sorte de pacte migratoire plutôt que d'une politique migratoire, dans le sens où on essaye d'inclure tous les acteurs dans ce pacte migratoire. C'est-à-dire qu'il y a un peu du donnant-donnant qui souhaite être mis en place. Le but n'est pas d'arrêter la migration. Vous parliez tout à l'heure de la France. La communauté malienne en France, et je pense que tous vos auditeurs le savent, est une des plus importantes communautés étrangères en France. Donc là-dessus, il n'y a pas de... On les met pas dehors. Je veux dire, ils sont là, ils s'installent, ils restent et ils vont rester. Et partout ailleurs en Europe, c'est la même chose. Il n'y a pas que les Maliens, bien évidemment. Il y a de toute origine qui sont installés en Europe. Mais le but est pour l'Europe, et vous le comprendrez parce que tout État ne peut se satisfaire que de choses qui se font dans la légalité, c'est d'arriver à favoriser une migration légale et évidemment de réduire une migration illégale qui est non seulement pas profitable pour ceux qui utilisent cette voie, mais qui en plus place tous les États de transit et de destination comme d'origine dans des difficultés qui sont très grandes.
Et pour cela, vous avez pris des mesures pour favoriser cette migration légale, des mesures que certains considèrent comme, en tout cas, des mesures très drastiques qui auraient fait beaucoup d'effets négatifs que positifs. On va écouter cet auditeur qui vous pose cette question.
Très bien.
en tant qu'ONG qui défend les droits des migrants. On a constaté beaucoup de drames qui ont été faits depuis la mise en place de Frontex. Je prends l'exemple de Ceuta et Melilla en 2006. Je vois à Lampedusa et à l'île des Canaries les drames qui surviennent tout le temps et ce qui se passe dans le désert algérien. Est-ce qu'il n'allait pas être bien de collaborer autrement avec l'Union européenne et les pays africains, les pays de départ, d'une manière positive et qui peut apaiser un peu la rentrée et le séjour des migrants dans le continent européen?
Oui, c'est une excellente remarque, une très bonne question. Le but est effectivement d'avoir une migration apaisée. Mais cette migration apaisée, une fois de plus, ne peut être que légale. Vous comprenez qu'un pays, et encore plus un ensemble de pays, ne peut pas se satisfaire d'une entrée désordonnée et incontrôlée chez elle. À chaque fois, cela provoque des tensions, cela provoque des dommages sociaux qui sont préjudiciables. Aucun État ne peut le tolérer. Donc oui, ça peut être considéré comme dommageable ou regrettable d'un point de vue des migrants qui veulent rejoindre l'Union européenne. Mais il faut aussi se placer dans l'optique des recevants. Je rappelle que quelqu'un qui arrive en situation illégale en Europe est condamné à rester un illégal, donc forcément à verser dans l'illégalité, que ce soit pour son travail, pour tout. Et donc, je dis, c'est un chemin tout droit vers la délinquance. Donc, on ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un. Donc, le but est vraiment de manifester un chemin vers l'illégalité qui soit peut-être plus clair, plus facile aussi. On ne le cache pas. Je pense qu'il y a beaucoup de pays européens qui l'ont exprimé très clairement. Il y a un besoin de main-d'œuvre en Union européenne, au sein de l'Union européenne. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, les gens qui viennent pour cette main-d'œuvre, cette attente de main-d'œuvre, sont les bienvenus. Mais une vague indiscriminée ne peut pas être acceptable. En plus, il est évident que cette jeunesse, cette force vive qui quitte l'Afrique est aussi préjudiciable dans les pays qu'elle quitte. Je mesure tout à fait la force qu'il faut pour ces jeunes gens, parce que c'est souvent des jeunes gens, hommes et femmes, qui entreprennent ce chemin migratoire, parce qu'il faut une volonté hors pair pour y arriver, pour se lancer, pour surmonter tous les obstacles et y aller. Et quelque part, moi, je dis que malheureusement, toutes les sommes d'argent, parce qu'il faut de l'argent et beaucoup pour être sur le chemin migratoire, toute cette somme d'argent que les familles mettent à la disposition du migrant illégal pour regagner un Eldorado qui est rêvé, hein, qui n'est pas un Eldorado, mais c'est rêvé. Peut-être que s'il était employé, si cette énergie et cet argent étaient employés localement, les pays de départ s'en trouveraient mieux. Et ça, c'est une réalité aussi. Quand je vois la qualité, le dynamisme de la jeunesse au Mali, j'ai envie de dire, mais avec toutes les opportunités qui existent au Mali, mais c'est ici véritablement que vous avez un avenir radieux. Il ne faut pas croire que l'Europe, c'est ce qu'on voit à la télé, etc. Non, l'Europe, c'est un paysage très dur. Actuellement, on a des températures assez élevées ici. Oui. En Europe, quand on atteint 20 degrés, on dit qu'on a chaud. Ici, on attend les 40. Donc vous imaginez bien que ne serait-ce que ça, vivre par des températures négatives, c'est pas drôle du tout, surtout quand qu'on n'est pas en situation légale, qu'on n'a pas forcément un toit, qu'on n'a pas forcément un travail et des ressources, parce que la vie est chère en Europe. Enfin, il faut casser le rêve un peu, je le reconnais, parce que ce rêve est entretenu par des passeurs, par des trafiquants qui souhaitent profiter de ces gens qui et c'est bien, et c'est comme ça que la jeunesse doit être, elle doit rêver à un avenir meilleur. Mais cette exploitation de ce rêve est malheureusement faite au détriment de cette jeunesse.
Alors nous enchaînons avec la seconde question concernant cette question migratoire. Je crois que c'est toujours ce même auditeur. Hein.
En 2015, une grande réunion à La Valette qui a abouti à l'adoption d'un plan d'action assorti d'un fonds fiduciaire d'urgence qui est des centaines de milliards d'euros et qui est géré par les États européens en collaboration avec l'Organisation internationale et les pays de départ. Alors, est-ce que ce fonds fiduciaire ne pourrait pas être injecté dans d'autres domaines de développement ?
Oui. Tout à fait. Alors ce fonds, malheureusement, on parle d'une chose qui n'existe plus. Alors, mais je vais revenir sur le sommet de la Valette.
Oui, rapidement, puisqu'il ne nous reste que 10 minutes.
Oh là là, c'est bon alors. Oui. Je veux dire, le sommet de la Valette a permis de faire le point sur la migration et de s'apercevoir que certes, elle représente des défis, mais elle représente aussi des opportunités. Donc c'est pour ça que désormais, le fonds fiduciaire n'existe plus. Désormais, c'est couvert par un nouvel instrument qu'on appelle NDICI. Le constat est toujours le même. On souhaite que l'immigration soit une chance, qu'elle soit bien organisée et non pas laissée aux mains de trafiquants et vraiment pour les désastres que l'on connaît. Je voudrais mentionner quand même que depuis le début de l'année, il y a entre 400 et 600 migrants qui sont décédés, noyés. Sur ce qu'on appelle la route atlantique, donc vers les Canaries. Donc c'est un drame journalier et personne, qui est un tant soit peu humain, ne peut se contenter d'observer ça et de ne pas ressentir une émotion forte devant un tel spectacle.
Alors nous entamons la troisième et dernière partie de cette émission maintenant consacrée à l'aide humanitaire. Nous savons que l'Union européenne participe aussi à cette action humanitaire au Mali. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment peut-on estimer cette aide qu'apporte l'Union européenne sur le plan humanitaire ?
Alors je pourrais faire là aussi un étalage de chiffres, mais malheureusement, le sujet s'y prête pas beaucoup. Il y a effectivement un constat sévère que le Mali et comme le Sahel doivent affronter une crise multisectorielle, multiforme. Et cela conduit une bonne partie de la population à la survie, j'allais dire. Hein. Et d'ailleurs, les informations qui sont passées juste avant votre émission mentionnent le rapport d'OCHA qui vient de sortir, qui précise qu'il y a environ 1 million de Maliens qui sont en situation humanitaire d'urgence. Donc effectivement, on ne peut pas rester insensible à cela. L'Union européenne a débloqué il y a quelques jours 201 millions d'euros pour le Sahel pour justement essayer d'avoir une réponse à cette crise. C'est effectivement très difficile. On mesure bien la difficulté des autorités également. Hein. Il y a la crise climatique, il y a la crise sécuritaire. Enfin, toutes les crises se superposent au Mali. C'est très, très compliqué. Néanmoins, l'Union européenne veut être présente, veut mettre sa pierre à l'édifice. Rien que pour le Mali, on a déjà prévu, je crois, 24 millions par ECHO, qui est notre organe de mise en œuvre de soutien humanitaire. Mais nous avons également aussi, au sein de notre coopération INPA, nous avons également prévu beaucoup de fonds. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'on est un peu pressé par le temps.
Oui.
Mais oui, on tient beaucoup à investir au bénéfice des populations. C'est même un petit peu notre préoccupation journalière. Les populations maliennes sont au cœur de notre préoccupation.
Alors nous allons écouter cette question de ce auditeur sur l'aide humanitaire.
En tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes d'appui humanitaire pour soulager un peu la souffrance de ces déplacés internes au niveau des centres urbains ?
Alors ce n'est pas que dans les centres urbains. D'une façon générale, on essaye déjà de venir en aide à travers un mécanisme de réponse rapide à tous les déplacés internes. Les déplacés, évidemment, se retrouvent effectivement, comme dit monsieur, beaucoup dans les centres urbains. Donc ce mécanisme permet d'apporter une assistance alimentaire, des abris, un accès à l'eau, des articles ménagers, enfin tout ce qui peut manquer évidemment à des gens qui arrivent de loin et complètement démunis. Mais nous avons aussi des éléments de réponse à apporter au niveau de la santé, de la protection et de l'éducation. C'est un coût assez complet qui est apporté. Ça serait peut-être astreignant pour tous vos auditeurs si je rentrais dans la précision du mécanisme.
Oui.
Mais voilà, on essaye vraiment d'apporter une réponse pour ces gens qui sont en très grande difficulté.
Et cet auditeur de Tombouctou aussi qui a une question.
Bonjour, je suis Mohamed Ibrahim Yattara, jeune leader depuis Tombouctou, la cité des 333 saints. Et je voudrais savoir, est-ce que l'Union européenne a un projet d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique qui est aujourd'hui une vraie menace pour la sécurité alimentaire des populations de Tombouctou?
Absolument, et c'est une très bonne question. Autant, comme je viens d'évoquer, on a des mécanismes de réponse urgente, rapide, notre coopération est, comme je l'ai dit au début, date de 66 ans, et donc on s'inscrit dans la durée. Et la sécurité alimentaire est justement un très bon exemple de ce qui s'inscrit dans la durée. Donc nous avons un immense volet, comme je l'ai dit, dans notre coopération de 2024 sur les 94 millions. Et il y aura près de 30 millions qui seront affectés à cette sécurité alimentaire. Le plus emblématique, c'est ce qu'on appelle la muraille verte, mais qui est pas simplement
alors,
de planter les arbres.
Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit, cette muraille verte.
Oui, alors c'est un ensemble régional. En fait, ça remonte à plusieurs années. Il est question d'arrêter la progression du désert, la désertification. Et donc, pour ça, il faut certes planter des arbres, mais il faut planter aussi des choses utiles, ce qui permet d'amener à l'autonomie certaines communautés, en particulier les femmes, et d'amener de l'eau, d'amener l'électricité également, puisqu'on peut installer des panneaux solaires pour la mise en valeur des produits récoltés, etc. etc. Ce sont des programmes globaux qui vont, j'allais dire, du Sénégal jusqu'à Djibouti. C'est vraiment tout... On essaye d'avoir je ne veux pas dire qu'on va arrêter le désert, c'est très présomptueux.
Oui.
Mais voilà, le but est que les populations ne soient plus obligées de fuir devant l'avancée du désert et qu'on arrive à leur apporter l'aide nécessaire sur place et qu'elles soient motivées pour rester et pouvoir vivre tout simplement là où elles sont, où elles le souhaitent, et dans ces régions parfois très difficiles.
Alors, au pas de course, nous enchaînons avec cette autre question de cet auditeur de Koutiala, si je ne m'abuse, qui demande quelle est la contribution de l'Union européenne à la promotion des droits de l'homme.
Alors, là-dessus, on a, j'allais dire, on essaye d'être exemplaire. C'est ça notre participation aux droits de l'homme. On n'est pas là pour donner des leçons. Les droits de l'homme, la démocratie existent sous plusieurs formes à travers le monde. On ne peut pas dire que la démocratie américaine soit la même chose que la démocratie britannique, etc., ou encore moins que celle de la Corée du Sud. Néanmoins, tout le monde s'accorde à dire que c'est des démocraties, que les droits de l'homme sont respectés. Mais chacun l'entend d'une certaine façon. Donc nous ne donnons pas des leçons en la matière. Évidemment, ça ne nous empêche pas, au cours de notre dialogue avec les autorités de tous les pays, quelles qu'elles soient, y compris maliennes, de temps en temps, de signaler certaines choses qui ne nous plaisent pas. Mais c'est parce qu'on fait part de la position européenne. Mais comme je le dis, ce n'est pas une leçon. C'est juste on fait part de notre position, de la même façon qu'en retour, les autorités nous font part de la leur. Donc voilà, on espère, nous, au niveau de l'Union européenne, que c'est notre exemple qui doit servir et qui doit un peu servir à la fois de guide. Et on espère que justement toutes ces années de sans guerre et de paix, on produit un modèle qui, on le sait, fait des envieux. On parlait de la migration. C'est pas pour rien que beaucoup de gens à travers le monde souhaitent gagner l'Europe, l'Union européenne. Mais voilà, c'est à travers cet exemple, cette exemplarité, que l'on essaye avant tout de promouvoir notre vision des droits de l'homme, de la démocratie, qui sont des valeurs à laquelle on tient énormément.
Alors, merci, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes au terme de cette émission. Je rappelle que nous étions avec le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali, M. Pascal Perenec, qui répondait aux questions des auditeurs aujourd'hui. Cette émission de Grand Dialogue a été réalisée par Mariam Koulibaly. La mise en onde était assurée par Ibrahim Sanogo. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara. Merci à toutes et à tous. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. On se retrouve demain pour un autre numéro du Grand Dialogue.